les uns les autres, nous avons pu le remarquer, les vêtements liturgiques ont une couleur qui signifie que nous ne sommes pas ce dimanche dans le temps dit ordinaire. Et en fait, ce dimanche est doublement pas ordinaire. Premièrement, c'est la solennité de la nativité de Jean le Baptiste, et puis c'est l'accueil de nos amis de foi et lumière, dont la présence fait résonner le mot que nous avons entendu dans le psaume « J'ai de la grandeur au regard du Seigneur ». Toute personne de sa conception jusqu'à la fin de sa vie a de la grandeur au regard du Seigneur. De façon usuelle, nous le savons, la fête d'aujourd'hui est appelée le Noël de l'été. Et de fait, la naissance du précurseur, telle que l'Évangile nous la rapporte, est toute empreinte de joie. Et les feux de la Saint-Jean, tout en étant, nous le savons, une survivance des fêtes païennes du solstice d'été, sont tout à fait aptes à signifier une profonde joie spirituelle. Et nous l'avons entendu dans la première oraison de notre célébration, il est précisément question de joie spirituelle. Une joie spirituelle que nous devons accueillir, puis ensuite transmettre. Comme nous venons de l'entendre, la naissance même de Jean le Baptiste est racontée par Luc avec un luxe de détails qui souligne à quel point la primitive Église accordait de l'importance à cet événement et donc accordait de l'importance à la figure du Baptiste. Et comprenons bien, comme toujours, il ne s'agit pas de la simple évocation du passé, c'est l'actualisation dans notre vie de ce qu'est le précurseur. Alors la conception même de Jean est racontée dans le récit qui précède très exactement le passage que nous avons à méditer ce matin. Et nous le savons, Zacharie a été incapable d'y croire et donc a été comme frappé de mutisme. Et pourtant, par cette conception, dans un couple avancé en âge, il y a la répétition d'un miracle qui, nous le savons, a accompagné la naissance de grandes figures du peuple hébreu, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob. Et nous comprenons bien que le but premier du miracle n'est pas d'émerveiller, mais de rendre palpable cette vérité biblique annoncée à Abraham et qui va être à l'origine de sa foi. Rien n'est impossible à Dieu. C'est au cœur de notre conviction. Dieu est le maître de l'impossible. Et dans la séquence de l'évangile de ce jour, tout le monde autour du couple se réjouit. Et en amont, nous le savons, Marie elle-même, à qui l'ange annonce la nouvelle, viendra rendre visite à sa cousine. Et au moment de la rencontre, l'enfant tressaillira de joie dans le sein d'Élisabeth. Et nous allons entendre, dans la très belle préface de ce dimanche, nous entendrons qu'avec le tressaillement, le sens de la mission du précurseur est ainsi annoncé. Jean le Baptiste révélera la proximité de la venue du Messie, du Sauveur, et il annoncera la joie de Dieu donnée aux hommes. Et la vie du Baptiste dévoile cette joie. Alors on va s'interroger, en quoi consiste cette joie ? On sait bien qu'il ne s'agit pas du plaisir ou de la satisfaction immédiate. Nous le savons tous, aux heures d'épreuve, de telles joies ne sont que transitoires, fugitives, et elles deviennent lointaines, fugaces, sans efficience dans notre vie. Nous voyons bien que la joie annoncée par Jean est d'une toute autre réalité, d'une toute autre intensité et profondeur. Elle est vraiment à long terme et donne donc du sens à toute l'existence. Elle ne se fonde pas sur les apparences et sur le superficiel. Elle prend racine dans notre désir le plus profond qui rejoint la volonté même de Dieu. Alors on se pose l'autre question, mais en quoi consiste ce désir? Il est celui d'une perspective avec la libération totale et définitive et du péché et de la mort. Et nous voyons bien que ce qui ne pourrait être qu'une chimère, une utopie fallacieuse, est précisément ce qu'annonce le Baptiste. Et c'est ce que nous avons entendu dans la belle seconde lecture. La grandeur de Jean est d'avoir cru profondément, intensément à cette joie, de l'avoir reconnue en Jésus et de l'avoir annoncée. Et là, frères et sœurs, nous voyons qu'il y a une jonction avec la mission du baptiste et notre propre mission baptismale. Reprenons. Nous le savons, la fin de la vie de Jean-Baptiste nous montrera le chemin à suivre. Et nous le savons, ce n'est pas un chemin de facilité, car nous connaissons la suite des événements. Nous savons comment Jean, à cause de sa droiture, sera d'abord jeté en prison, puis exécuté. Et ici, le précurseur anticipe sur ce que sera la passion de Jésus. Nous le voyons bien, préférer être fidèle à la parole de Dieu plutôt qu'à toute autre chose, y compris sa propre vie, c'est le chemin que prendra le Christ. Ce sera ce que nous appelons son chemin de croix. Et pourtant, et c'est très essentiel, cette souffrance se trouve illuminée par une immense espérance, par l'indéfectible confiance en Dieu pour qui rien n'est impossible. Et à cet instant, comment ne pas citer le magnifique livre du père Jacques Mourad, notre ami Jacques Mourad. Dans son livre, il raconte comment, en étant otage des djihadistes, il a fait peu à peu de sa geôle une cellule monastique, et que, en enracinant ce temps de captivité dans la prière, peu à peu, pour une part, il a changé le regard de ceux qui le détenaient en captivité. Et de même, nous le savons, dans notre propre vie, il y a des moments où nous sommes comme crucifiés. Mais nous le savons, derrière la croix, il y a toujours la lumière de la résurrection. Comment ne pas penser aux mots si beaux de Don Elder Camara, disant « Plus noire est la nuit, plus belle est l'aurore. » Telle est l'espérance chrétienne. Et cette espérance devient pour nous la vraie lumière dans tous les choix que nous avons à faire, dans les choix les plus essentiels, les plus vitaux, comme dans les choix les plus simples, les plus humbles de notre quotidien. Parfois, ces choix nous conduisent sur des chemins, des routes austères, mais nous le savons, c'est au cœur de notre conviction chrétienne, foi et lumière guident nos pas.